Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Richard et son équipe.
Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent en devenir membres. Basé sur les 12 étapes des Alcooliques anonymes, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Alors, une autre émission cette semaine, on va être en compagnie de Lita et... comme à chaque semaine, elle va venir nous exprimer la manière dont elle a pu réintégrer une vie saine dans le mouvement des alcooliques anonymes. Alors, Lita, je te passe la parole.
Merci, Richard. C'est beau comment les choses se passent. Hein? Ce matin, on cherchait quelqu'un, puis moi, je suis arrivée sur le fly comme ça. Dieu se sert des gens et des événements hein, pour que les choses arrivent. Ça fait partie de ma gratitude envers Or. Je vais d'abord vous parler un petit peu de qui je suis, d'où je viens, mon enfance. Ensuite, je vais vous parler un peu de mes quelques brosses monumentales que j'ai prises pour vous dire que je suis vraiment une alcoolique. Ensuite, je vais vous parler de comment moi je m'en suis sortie avec les étapes. Les étapes ont été pour moi un mode de vie extraordinaire. Fait qu'on va commencer par le tout début. Hein. Moi, j'aime dire que j'étais un backorder parce que j'étais un enfant adopté. Moi, j'ai été adopté à l'âge d'un an. J'étais un modèle 51. Fait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de parents qui recherchaient des enfants. Mais moi, j'étais un petit peu maigrichon, pas de cheveux sur la tête, faisais de l'acné. C'était pas très ragoûtant pour les parents. Et après un an en crèche, là, je me dirigeais vers les enfants du Plessis, moi, totalement. Puis ils ont eu une demande d'adoption de parents gaspésiens, qui était le bout du monde à l'époque. C'est encore le bout du monde aujourd'hui. Et mon père voulait avoir une petite brune aux yeux bruns, puis les religieuses se sont dit dans leur grande sagesse, tiens, on va leur pitcher celle-là. Là. Moi, je suis blonde aux yeux bleus, là, pour ceux qui ne me voyaient pas à la radio. Alors, mon père, quand il m'a vu, il était habitué en Gaspésie à commander dans les catalogues Simpson puis Sheaton, puis d'avoir des back-orders. Fait qu'il a dit, hey, pas bonne couleur, pas bonne grandeur, mais on va regarder pareil comme on fait avec tout le reste. Alors, je dis souvent que j'étais une back-order. Ce que ça a fait, moi, ça a fait deux choses dans ma vie. Ça a fait que j'ai vécu beaucoup de rejets, parce que dans les années 50, un enfant de dans un petit village de 6000 habitants, c'était pas une farce, là. On était rejetés partout, on a vécu de la discrimination, de l'intimidation, mes frères et moi, parce que j'ai deux frères adoptés aussi, qui sont pas dans la même lignée que moi, mais on est trois enfants adoptés chez nous. Alors, on a vécu ça, beaucoup, 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 fait que ça forge un tempérament d'alcoolique. Puis deuxièmement, un médecin, un psychiatre m'a expliqué que d'avoir été en crèche pendant un an comme ça, moi, j'ai développé dans le non-dit, dans l'inconscient, le syndrome du rejet ou le syndrome de l'abandon, si vous voulez. Et ça m'a suivi toute ma vie. Puis l'alcool a été le remède parfait pour faire ça. Alors moi, dans mon enfance, je me sens toute seule. J'ai deux frères plus jeunes que moi qui font leur truc. Puis moi, je me sens vraiment toute seule. J'ai une mère alcoolique autoritaire qui nous isole un petit peu. Donc, je suis une enfant qui apprend rapidement à s'occuper d'elle-même, à faire mes propres trucs, dont j'apprends, moi, à jamais m'ennuyer, à être bien tout seul. Parce que quand je suis avec des gens, soit qu'on me tabasse, soit qu'on me crie des noms, soit qu'on me fait de la chenoute tout le temps, puis on nous empêche de circuler dans le village. Alors, je deviens un enfant très solitaire comme ça. Je touche à l'alcool, j'ai 6 ans, ma mère faisait du vin de pissenlit. Pour faire une histoire courte avec ça, j'ai goûté à ça, puis j'ai senti l'alcool dans mes veines. Déjà là, je voyais comment l'alcool, inconsciemment, dans ma petite tête d'enfant, là, ça répondait déjà à quelque chose, cette affaire-là. Et ma première brosse, je l'ai prise à l'âge de 17 ans. C'était le mariage d'une cousine en Gaspésie. Puis c'est ma mère qui fournissait l'alcool, le fameux vin de pissenlit de ma mère. Et ma mère m'avait dit, il est assez fort, fais attention. Puis je m'étais saoulée la gueule bien raide. Puis je m'étais ramassée à 3 heures du matin dans la salle de réception, dans la toilette, la joue à côté sur le bol de toilette. C'est frette un bol de toilette, là, à être malade. Puis ça a été mon premier vrai contact avec l'alcool. Par la suite, moi, j'ai continué mes études au cégep et tout ça. Puis qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à boire énormément, puis assez que j'ai dû interrompre mes études. Ça a fait que Mes premières années d'adolescence, ça, se sont passées dans l'alcool. Aujourd'hui, ce qui monte, c'est drôle, là, ça monte maintenant à la radio. J'ai fait une tentative de suicide parce que je me sentais pas bien. Déjà à l'époque, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec moi. C'était quoi? Je le savais pas à l'époque. Est-ce que c'est mon syndrome d'abandon, le rejet, ma mère autoritaire? Aucune idée, là, mais moi, je savais que je me sentais pas bien. Puis l'alcool faisait un job extraordinaire. L'alcool m'a permis de devenir un clown. Hein? L'alcool m'a permis de socialiser. L'alcool m'a permis d'avoir du plaisir avec les gens. Fait que moi, j'avais pas beaucoup de sous, mais je rentrais dans n'importe quel bar puis je disais, qui c'est qui va me payer ma bière si je bois une caisse de 24? Alors, ça vous donne un aperçu de la capacité d'alcool que j'étais capable de prendre. Alors, je buvais. Un soir, je suis revenue à ma maison de pension où j'étais, puis je marchais sur le bord du quai en espérant de manquer le pied. Ça a été ma première tentative de vouloir finir mes jours. Après ça, j'ai dit à ma mère, qui prenait de l'alcool et des pilules, que je dormais pas bien la nuit. Fait que ma mère m'a donné ce qu'on appelait à l'époque des Valium, là. Fait que moi, Valium, bière, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Alors, j'ai fait à un moment donné une overdose de Valium. Fait que, bon, tentative, ils m'ont récupéré, puis, tu sais. Alors, ça vous donne une idée de comment j'étais dans ma tête déjà à ce moment-là, sans trop savoir que je suis un alcoolique ou pas, tu sais. Ce qui fait que, bon, on arrête les études, on va passer un an aux États-Unis dans une famille très stricte du côté de ma mère, fait qu'on boit pas pendant un an. On revient et ça repart de plus belle. Je continue mes études à Granby et en tourisme, puis je suis un peu tannée de mes études. Dans bon alcoolique, là, on boit au cégep, on fume. Le cégep des années 70, c'était arrangé comme ça. Là, ce que je dois quand même raconter, c'est que j'avais un prof de philo, puis on allait au café étudiant, puis on jasait avec un joint puis une bière. Puis moi, j'avais dit que je croyais pas en Dieu, puis il m'avait dit, je vais te suggérer de lire Teilhard de Chardin, qui est un philosophe contemporain, là. Puis il devrait être réconcilié avec Dieu. Puis effectivement, j'ai lu ce livre-là, puis merci mon Dieu, ce prof-là qui s'appelait Michel, il avait une tête frisée puis des bretelles bleu-blanc-rouge, il était tellement drôle. Lui m'a permis de me réconcilier avec un Dieu qui avait rien à voir avec celui de mon enfance. Et ça, ça a été extraordinaire parce que ce Dieu-là, il m'a suivi pendant tout mon temps actif. J'avais quand même Dieu dans ma vie. Alors, vous êtes capable de comprendre que quand je suis arrivée dans A, ça, c'était en partie réglé, hein, que Dieu faisait partie de ma vie, que j'avais développé une conception de Dieu qui faisait mon affaire à cette époque-là. Alors, j'ai quitté le cégep assez rapidement. J'ai fait des applications pour des emplois, puis je suis venue à bout de me trouver une job. Je voulais travailler en tourisme, je voulais faire le tour du monde. Alors, ça a réussi. Je suis devenue agent de voyage. Et là, agent de voyage, je déménage à Montréal, mais je déménage chez la sœur de mon père. La sœur de mon père, c'est une membre des Alcooliques anonymes. Elle a connu Dave, là. Les autres, ils ont arrêté de boire dans les années 56-57, à peu près. Fait qu'elle a déjà quelques années de sobriété derrière la cravate, ma tante, puis elle me regarde fonctionner, puis elle trouve que j'ai pas mal les traits d'un alcoolique. Fait qu'elle me dit, Lita, t'as un problème avec l'alcool. Toi. Fait que moi, j'adore cette tante-là. J'ai dit quasiment, tu sais, je l'avais mis sur un piédestal. Fait que je suis d'accord avec elle. Parfait. Elle dit, on va faire AA ensemble. Parfait. Une activité avec ma tante. Moi, je trouve ça le fun, tu sais. Fait que j'ai fait AA pendant 9 mois. Croyez-le ou non, moi, j'ai été conférencière au congrès au Queen Elizabeth le dimanche matin. Ils m'ont planté là avec mon petit 6 mois de sobriété, puis ils m'ont laissé faire un partage de spiritualité parce que je croyais en Dieu, puis tu sais, j'étais rafraîchissante pour les gens qui avaient là parce que j'avais 19 ans, tu sais, 19 ans. Fait qu'imaginez-vous, 19 ans dans A, là, les vieux de la vieille, là, ils me regardaient pendant, ils me disaient la phrase consacrée, là, tu sais, t'as pas bu la moitié du quart de ce que j'ai échappé sur ma cravate, là, tu sais. Alors moi, j'avais beaucoup de misère, disons, à m'identifier dans A. Fait que ce qui est arrivé, j'avais beau jeton de 9 mois, et mon patron est venu me voir, puis il m'a dit, bon, on va te déniaiser un peu, on va te faire voyager. Fait qu'ils m'ont envoyé au Mexique. Alors vous imaginez, jeton de 9 mois dans ma poche, j'arrive à l'aéroport, je rentre à l'aéroport, on s'en va en avion, puis on est en première classe, on est sur le tarmac de l'aéroport, on est en première classe, et qu'est-ce qu'on fait? On sert du champagne. Alors, 19 ans, je tombe 9 mois. commence à voyager, le rêve de ma vie de voyager. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé que je tombe de moi? Hein? Il a pris le bar, puis j'ai pris un verre de champagne. Alors, ce premier voyage-là, à 19 ans, au Mexique, pendant une semaine, ça a été la beuverie pendant toute la semaine. Puis il y a des gens ont pris soin de moi. Ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai voyagé, moi, j'ai bu à Amsterdam, j'ai bu dans toutes les grandes villes du monde. Puis il y avait toujours quelqu'un qui était là pour dire, pauvre petite affaire, ça n'a pas de bon sens. Fait que tout le monde me ramassait, tout le monde me protégeait, tout le monde s'occupait de moi, tout le monde faisait ce qu'il fallait avec moi. Fait que, ce qui fait que ce voyage-là au Mexique, là, ça a été... je me suis perdue dans le village des prostituées, la Huerta, à Acapulco. C'est pas la place où se perdre là, pour une petite fille de 19 ans. Là. Je sais pas comment ils m'ont récupérée, j'ai aucune idée. Là. Je me suis ramenée à l'hôtel, on était au Marriott, un hôtel de grand luxe à Acapulco. Là, ils m'ont ramenée là. Amsterdam, c'était la même affaire. Je veux dire, je pars pour Amsterdam là, 2-3 ans plus tard. Puis moi, c'est comique parce que j'ai bu en riche quand je voyageais, puis je buvais en pauvre quand j'étais à Montréal. Parce que mon salaire ne me permettait pas de boire beaucoup de boissons fortes. Alors, je buvais de la bière principalement, puis bon, un petit joint à travers de ça. Mais quand je voyageais, les alcools étaient payés par des compagnies aériennes. Alors moi, rien était... Tu sais, vin en mangeant, on dégustait toutes sortes de bières, on allait dans des bars. C'était toujours payé. Le running bill, on s'en occupait pas. Fait que vous imaginez comment j'ai pu boire. Fait que c'est... Moi, mes plus gros blackouts, je les ai faits en voyage parce que j'avais les moyens de boire sur le bras de quelqu'un d'autre. Alors Amsterdam, je me rappelle, on est sur la mer du Nord à 2h d'après-midi. Shot de gin avec bière. 14 shots de gin, tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est moi qui conduisais pour me boire jusque-là. Ils m'ont enlevé le volant pour venir parce que j'étais pas dans un état pour conduire. Puis j'ai fait un blackout de quelques heures et je me suis ramassée à genoux dans un restaurant en train de crier dans le cul parce que danke, ça veut dire merci en hollandais. Alors vous imaginez un peu dans quel état je pouvais être. Fait que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe dans l'adolescence d'un alcoolique.
Alors, Lita, on va faire une première pause et on peut voir l'alcool, où est-ce que ça peut nous mener. Dès le départ, elle a fait les AA, elle a connu un peu le rétablissement, qu'est-ce que c'était, mais par la suite, on voit que quand on ne fait pas tout ce qu'il faut dans les alcooliques anonymes, ben l'alcool est puissant, déroutant et sournois, et c'est ce qui est arrivé à Lita. Alors, hâte d'entendre la suite après cette pause.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
Écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe.
Bienvenue de nouveau à l'émission Un jour à la fois. Vous êtes en compagnie de Richard et René et je vais vous faire la lecture d'un livre des alcooliques anonymes. J'imagine qu'il y aura toujours des querelles chez les AA, surtout, à mon avis, à propos de la façon de faire le plus grand bien pour le plus grand nombre d'ivrognes. Nous aurons nos prises de bec puériles à propos des questions insignifiantes de gestion de l'argent et de qui dirigeront nos groupes au cours des 6 prochains mois. Il serait anormal qu'il en soit autrement dans un groupe d'enfants en croissance, ce que nous sommes. Ce sont les difficultés de la croissance et nous en tirons profit. Vaincre de telles difficultés à la rude école de la vie chez les AA est un sain exercice. Et cette lecture nous inspire aussi que chez les AA, nous sommes complètement indépendants de toute cause extérieure aux alcooliques anonymes. Alors, c'est pour ça qu'il faut se diriger soi-même en tant qu'alcoolique. Parfois, on veut tout diriger soi-même et c'est comme ça qu'on apprend à grandir chez les alcooliques anonymes en faisant le lâcher-prise. Alors, nous allons continuer avec la deuxième partie que Lita va nous conter maintenant.
Merci, Richard. Alors, on va reprendre ça, ce qu'on avait laissé. Moi, j'ai bu jusqu'à 55 ans. J'en ai 68 aujourd'hui. Là, j'ai 14 ans de sobriété, grâce à Dieu. Je dis toujours que moi, j'ai eu la plus longue rechute parce que j'ai rechuté à l'âge de 19 ans, puis je suis revenue à 55 ans. Puis Dieu merci, je suis revenue avec tous mes morceaux, j'ai rien perdu, j'ai pas de problème de santé. J'ai eu des accidents d'auto, mais je me suis jamais fait mal vraiment fort. J'ai jamais été arrêtée par la police. Si aujourd'hui, moi, je refaisais ce que j'ai fait dans le temps, là, dans les années d'aujourd'hui, je serais en dedans. Tu sais, ils m'auraient arrêté pour ivresse au volant, puis ils m'auraient arrêté pour récidive d'ivresse au volant, puis ils m'auraient enlevé mon permis de conduire, puis ils auraient tout fait ça parce que j'ai conduit dans des états, je peux pas vous raconter dans quel état. Quand tu conduis avec une mèche à un œil, là, ça te donne une idée, puis que tu suis la lumière du gars d'en avant de toi en espérant qu'il prend le même chemin que toi et qu'il s'en va à la même place que toi. C'est un peu ça que j'ai fait avec les autos. Fait que j'ai bu, moi, pendant toutes ces années-là, j'ai passé à travers la mort de mon père. Puis je vous dirais que l'alcool a fait la job. Tu sais, l'alcool elle m'a rendu, comme je disais tantôt, elle m'a permis de socialiser, puis elle m'a permis de vivre des moments difficiles comme la mort de mon père, où mon père et ma mère s'adoraient tous les deux. Alors, j'ai ramassé ma mère à cuillère. Puis c'est grâce à l'alcool que j'ai été capable de faire ça. Puis ma mère aussi, fait qu'elle buvait, moi je buvais, puis on se consolait, puis on essayait de mettre les choses en place. Alors, l'alcool a été... Pendant plusieurs années, l'alcool a rempli son rôle de combler le vide intérieur que j'avais, le mal-être que j'avais intérieur. Autre chose que j'ai faite aussi, tout en buvant énormément là dans des bars du bas de la ville puis à travers le monde là. Ça a l'air fou à dire, mais c'est comme ça, c'est mon parcours à moi. Moi, pour combler ce vide-là intérieur, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis mis à lire tous les livres de puissance, de croissance personnelle qui peut exister. Les éditions Un Monde Différent, là, moi, j'ai dû avoir des parts là-dedans parce que tous les livres qui vendaient là-dessus. Alors moi, je me vois encore là, dans la trentaine, là, dans mon lit, le soir, à lire pendant une heure, avec la bière à côté, là, tu sais, là. Puis, tu sais, ça fait un cerne sur ta table de nuit, là, parce que ta bière, elle va toujours là, tu sais, là, parce que tu bois jusqu'au temps que tu vas te coucher, tu sais. Alors, tu bois comme ça pendant des années, puis à un moment donné, j'ai vécu la mort de ma mère à travers ça aussi. Ça a été épouvantable parce que la famille voulait me déshériter. Je vous ai dit que j'étais un enfant adopté. La famille, on dit que je voulais tuer ma mère parce qu'on avait arrêté des traitements à sa demande à elle, selon des papiers et tout, là. Alors, la famille m'a traité de tous les noms. Ils m'ont menacé d'aller voir un juge pour me faire déshériter, me faire passer pour folle. Une chance, encore une fois, que j'avais l'alcool. Ma mère avait un bar bien garni, là, parce que je demeurais chez ma mère pendant qu'elle était aux soins palliatifs. J'ai bu pour m'en sortir, tu sais. Ce qui fait que on boit comme ça, puis l'alcool nous rend service jusqu'au jour, au moment donné, où l'alcool nous rend plus service. Puis là, je vous parle d'un événement particulier. Moi, le 11 septembre 2001, depuis un bout de temps, je suis à mon compte. Je travaille pour moi-même, là, comme agent de voyage, puis comme formatrice, là. Je travaille à mon compte. Ce qui fait que je suis chez moi plus souvent qu'autrement. Et à 9h10, moi, le septembre 2001, je vois les deux avions rentrer dans les tours, puis je me rends compte que dans le métier que je suis, là, c'est fall ball, là, tu sais. Et ça a un effet sur moi en tant qu'alcoolique active, là. Ça a un effet sur moi de panique, de peur et d'angoisse. Ça a comme déclenché chez moi les 5 dernières années, là, de 2001 à 2006, j'ai arrêté le 4 août 2006. Là, ça a été vraiment la descente aux enfers. L'alcool réussissait plus à remplir le vide. Les livres réussissaient plus à remplir le vide. Ma job, ben, il y avait de moins en moins de contrats parce que je buvais de plus en plus. Alors, moi, j'avais commencé tranquillement, là, l'alcool à 9 heures le matin, tu sais, un café, là, pour faire correct, là, puis après ça, c'est une bouteille de bière, tu sais. Puis au midi, c'est du vin, puis le soir, l'après-midi, si on revient à la bière. Fait qu'on change d'alcool de toute la journée comme ça pour finir avec la bière avant de se coucher. Puis on se réveille à 3 heures du matin parce qu'on a soif pour mourir, là, à vouloir boire le robinet au complet parce que, et on repart le lendemain matin. Là, ça m'a permis de... Ça a fait ça que j'ai développé beaucoup d'anxiété morbide. Ça allait plus bien. J'ai développé de l'agoraphobie. J'avais peur des grands espaces. Puis imaginez-vous, moi, je suis gaspésienne. Ça fait que je descends tous les étés en Gaspésie. C'était de plus en plus pénible de descendre en Gaspésie parce que moi, des côtes puis des... Tu sais, là... Quand ma vision frappait ça, là, je venais étourdie, là, tu sais. Fait que j'étais en train de m'handicaper énormément à cause de l'alcool. Puis là, tu sais, j'ai perdu des contrats parce que j'étais pas capable de me présenter à un contrat. À 2 heures l'après-midi, moi, j'étais faite à l'os. Fait que si tu me demandais de quoi à 9 heures le matin, j'étais perdu bien raide. Fait que j'ai commencé à de moins en moins travailler, de plus en plus à m'isoler, de mettre la caisse de bière à côté de mon lazy boy, puis de regarder le monde passer par la fenêtre qui faisait du bicycle. Moi, qui étais une fille très, très active à une certaine époque, qui faisait du bicycle, qui marchait beaucoup. Je les regardais faire, je disais, mon Dieu, que son cap, c'est bon, je fais bien trop chaud pour aller faire du bicycle. J'étais, en d'autres mots, là, quand j'ai arrêté de boire à 55 ans, là, j'étais plus vieille que je le suis maintenant. Ce matin, je me suis emmenée à l'aide téléphonique en bicycle, à 4 degrés, les mitaines des mains, la tuque sur la tête, tu casses par-dessus, puis je me suis emmenée comme ça. La sobriété, hein, la sobriété. À 55 ans, moi, j'étais une petite vieille, puis à 68 ans, comme je dis souvent, je retourne en enfance. Là, t'sais. Fait que c'est ça qui est les alcooliques anonymes. T'sais. Fait que j'ai, là, à un moment donné, 5 ans comme ça, être dans l'angoisse et tout ça, puis à un moment donné, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Dernier voyage en Gaspésie de l'année 2006, j'ai de la misère, je conduis dans des conditions épouvantables. Quand je reviens à Montréal, je fais venir quelqu'un pour réparer quelque chose chez moi. Hein. Dieu se sert des gens et des événements pour que ça fonctionne. Puis je lui partage, parce qu'il avait fait d'autres travaux chez moi, je le connaissais quand même pas mal, que je souffre d'agoraphobie. Puis il me dit, ma blonde souffre de ça. Je dis, ah oui? Il dit, elle s'est guérie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, elle a arrêté les excitants. Pour vous démontrer dans quel déni j'étais, j'ai répondu à ce gars-là, je vais arrêter le café. C'est probablement le café qui me dérange. Faut être dans le déni de l'alcoolisme pour être capable d'avoir une réponse comme celle-là, tu sais, là. Fait que Dieu m'a aidé là-dedans. Et à un moment donné, je me suis couché un soir au début d'août, puis ça a fait, non, là, ça peut plus marcher comme ça, là. Ça a plus d'allure, tu sais, là. Oubliez pas que moi, j'ai fait des alcooliques anonymes pendant 9 mois, là. Fait que dans ma tête, ça a fait ding, ding, ding. Le lendemain matin, j'ai pris le téléphone. Le mercredi, le 2 août, j'ai appelé à l'aide téléphonique où je fais du service actuellement. Et j'ai demandé, voir s'il n'y avait pas un meeting dans mon coin. Puis le gars, il me dit, un beau meeting ce soir à 2 rues de chez toi. Puis j'y réponds pour vous montrer un peu dans quel état j'étais. Moi, là, à la fin de tout ça, là, j'avais développé tellement de colère. La colère, pour moi, c'était le tapis en dessous duquel je mettais toutes mes syndromes, puis mes peines, puis mes ressentiments, puis toutes mes cochonneries, là, c'était sur le couvert de la colère. Moi, j'ai développé une colère à partir de 2001, là, aller jusqu'à 2006, j'ai développé une colère énorme, énorme. Alors, je m'arrangeais pour que tout le monde soit en colère comme moi. Je rencontrais des gens qui étaient heureux, je trouvais quelque chose pour que c'est moins heureux. Je lui donnais, j'avais un front de bœuf, ça avait pas d'allure. Mes amis voulaient plus aller manger avec moi au restaurant, ou surtout qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, je gueule. Tu sais, c'était effrayant. Ce qui fait que le gars, le 2 août, quand il mentionne un meeting, j'y réponds textuellement, « Hey, le Zouf, je t'ai pas demandé ça pour asseoir, je veux ça pour vendredi soir. » Et le gars, dans sa sobriété, il m'a dit, « Excuse-moi, j'avais mal compris. » Il m'a donné un meeting pour le vendredi soir. Imaginez-vous une seconde que ce gars-là, là, il embarque dans mon affaire, là, puis qu'il comprend pas que je souffre, puis qu'il me répond, « Hey, tu me parleras pas comme ça. » Moi, je suis peut-être pas là, là. Peut-être j'aurais jamais accroché à A. Fait que le fait que ce gars-là ait été empathique envers moi m'a permis de faire un premier meeting. Alors, le vendredi soir, le 4 août, à 7h30, j'ai fini toutes mes alcools, j'ai tout bu ce qu'il y avait à boire dans la maison, mais vraiment, toute la journée, là, hein, on a bu parce qu'on boira plus, là, hein. Fait que, et je me suis présenté au meeting, 30 livres de plus que maintenant, les yeux dans la graisse de bine, je me souvenais plus quand j'avais pris ma dernière douche. Et je rentre là-dedans, puis l'animatrice qui est là, elle cherche quelqu'un pour lire les étapes. Puis moi, en frappe à bord comme je suis, là, je lui dis, « Moi, va te les lire, tes étapes, moi. Je connais ça, oh, moi, je l'ai faite pendant 9 mois. » Pouvez-vous vous imaginer l'ego? L'ego énorme qui rentre dans une salle de meeting, qui est à moitié détruite, qui est dans sa tête, c'est l'enfer, puis elle a réussi à répondre une réponse comme celle-là, tu sais. Ce que j'avais pas prévu, c'est que fallait que je m'identifie, que je dise mon nom, je suis Lita, je suis une alcoolique. Ben, imaginez-vous que les étapes, je les ai broyées, les 12 étapes, je les ai broyées au complet, tu sais. Ce qui fait que, ils m'ont accueilli avec tellement d'amour, ça a été extraordinaire, tu sais. Dieu se sert des gens, des événements, hein. Alors, ils m'ont dit, ils ont bien vu que le vendredi soir, quelle sorte d'égo que j'avais, fait que ils m'ont dit, Lita, on a besoin de toi dimanche matin, il faut que tu sois là dimanche matin. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait le dimanche matin? Je me suis présentée au meeting. Et c'est comme ça que mon aventure a commencé avec AA. Et moi, je savais que j'étais une alcoolique. Parce que je savais à 20 ans que j'étais une alcoolique. Et quand je buvais dans les bars, je disais à mes compagnons de beuverie, t'es un alcoolique comme moi. Puis eux, ils disaient non. Mais moi, je disais oui, oui, oui. Mais j'avais jamais admis mon impuissance devant l'alcool.
Sur ces sages paroles, on voit hein, que l'alcool peut, pendant un certain temps, nous permettre de bien fonctionner, mais par la suite, l'alcool fait ressortir nos défauts, nos traits de caractère qui sont négatifs et néfastes pour notre survie. Et c'est ce qui s'est produit avec Lita. Et on va pouvoir voir la suite après cette pause, dont j'ai bien hâte d'entendre la suite.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Richard et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours en compagnie de René et Richard. Alors, pour les auditeurs qui voudraient venir visiter notre site Internet, vous pouvez le faire sur unjouralafois-émission.org. Ceci te donnera accès à notre banque de fichiers de partage archivés pour écoute sur tous tes appareils intelligents, ainsi qu'aux divers heures de diffusion de nos collaborateurs radio. Tu pourras aussi nous y écrire par courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour venir y partager ton histoire comme Lita le fait présentement aujourd'hui et ça pourra aider un alcoolique qui souffre encore. Alors, on va poursuivre aussi en compagnie de Lita. On peut maintenant constater qu'elle est de retour parmi nous et nous avons hâte de voir la suite pour voir le beau travail qu'elle a accompli sur elle. Alors, c'est à toi, Lita, je te passe la parole.
Merci, Richard. Moi, j'ai fait mes débuts avec vous autres le 4 août 2006 et j'ai pris ça au sérieux. J'étais dans un état mental, là, je réalisais en buvant pas, là, tu sais, quelques jours sans boire, là, tu commences tranquillement à dégriser. J'ai commencé à comprendre que j'étais dans un état pitoyable, que j'étais... que entre mes deux oreilles, là, j'étais totalement en prison. Je souffrais sans savoir que je souffrais. J'étais mal, mais j'arrivais pas. Et tranquillement, avec vous autres, vous m'avez intégré. Vous m'avez dit de faire du service. Fait qu'ils m'ont dit, tu vas faire du café. Moi, comment qu'on fait ça? Quelqu'un était avec moi, il m'a montré à faire du café. Et j'ai commencé à faire différents postes dans AA, tranquillement, puis à mettre en pratique les étapes. Pour les étapes, je vous dirais que ça a été extraordinaire pour moi parce que moi, j'ai connu ma marraine AA dans mon actif. Elle ne buvait pas sur un voyage à Cuba. Puis ça a été un de mes anges gardiens qui m'a ramassé puis qui me ramenait à la chambre à 3 heures du matin en me disant « C'est assez, Lita, là, tu n'es assez faite pour aujourd'hui. » Et elle m'avait lancé une perche à l'époque que je n'avais pas pris, bien entendu. Et puis quand j'ai décidé d'arrêter de boire le 4 août 2006, j'ai téléphoné à Rimouski parce que c'était un agent de voyage de Rimouski. Elle est décédée maintenant du cancer. Je l'ai appelé puis j'ai dit « Je commence mon aventure avec AA, tu sais. » Puis j'ai dit « Je veux que tu sois ma marraine. » Fait que moi, j'ai eu une marraine en partant, quelqu'un en qui je pouvais avoir une totale confiance parce qu'on avait gardé un lien, une certaine amitié. Alors, Michel, 33 ans de sobriété, elle m'a entrepris, tu sais, les 6 premières années dans AA, moi, j'ai eu l'aide de Michel qui était à côté de moi jusqu'au temps qu'elle tombe malade. Là, c'est moi qui l'a soutenu jusqu'à un certain point. Et moi, j'ai embarqué dans le programme. Puis je veux vous parler des étapes, il nous reste encore plusieurs minutes, là. Puis je veux vraiment vous parler, je pense que vous savez maintenant que je suis un alcoolique, je pense que vous avez compris que moi, là, ça allait pas bien mon affaire, puis que je peux définitivement admettre mon impuissance devant l'alcool. Mais croyez-le ou non, je vais vous parler un peu comment moi, j'ai vécu les étapes et comment je vis actuellement les étapes. Comment le mode de vie m'a amené aujourd'hui à être quelqu'un d'assez serein, quelqu'un qui touche au bonheur plus souvent qu'autrement. Je suis heureuse actuellement, ça va bien dans ma vie, c'est extraordinaire et ça, je le dois à AA. Je le dois dans l'application du programme des Alcooliques Anonymes. Fait que moi, la première partie, la première étape, je l'ai faite totalement. On dit toujours que la première étape, il faut la faire sans aucune réserve si on ne veut pas avoir de troubles. Bien ça, je l'ai faite sans problème. Où est-ce que j'ai eu de la misère avec mon gros ego? C'est la deuxième partie de la première étape. Hein? Moi, je ne pensais pas que j'avais perdu le contrôle de ma vie, tu sais. Croyez-le ou non, là, moi, j'étais sûre que parce que j'avais encore une job, une soi-disant job, parce que j'avais encore ma maison, que j'avais encore un char de l'année devant la porte, que ma garde-robe était remplie de vêtements, puis que je mangeais ce qu'il y a de meilleur, que moi, là, je n'avais pas perdu le contrôle de ma vie. Croyez-le ou non, ça m'a pris 2 ans à vraiment faire cette deuxième partie-là, puis admettre que mon ego était mon handicap premier, hein, qui m'empêchait d'être bien dans la vie. Moi, vous m'avez expliqué que quand on arrête de boire, on règle 15 % du problème, puis que le 85 % c'était moi. C'était mon tempérament, c'était mes déficiences, c'était ce que j'étais. C'était tout le bagage que j'avais accumulé dans ma grande période de survie. Là, j'avais accumulé un paquet de choses et c'est là-dessus que je devais travailler, que les étapes m'amenaient à travailler. Fait que la première étape, je l'ai faite à un moment donné complètement, puis j'ai compris. C'est là que le véritable travail a commencé pour moi. Quand je suis arrivée à la deuxième étape, nous en sommes venus à croire. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'étais revenue vers Dieu. Mais à 55 ans, j'étais plus bien sûre que Dieu voulait s'occuper de moi. Je croyais qu'il était là, je croyais qu'il pouvait faire des choses, mais vous savez, pour moi, là, l'ego puis l'estime de soi, c'est un vase communicant. Quand l'ego est énorme, hein, c'est un masque, hein, on est dans une bonne période de parler de ça, là. C'est un masque qui fait que notre estime de soi est à zéro. Et quand l'ego diminue, l'estime de soi monte, c'est des vases communicants, et on commence à s'aimer, puis on commence à réagir de façon correcte par rapport à ça. Alors moi, je pensais pas que Dieu pouvait prendre soin de moi, parce que moi, là, dans ma vie active, j'étais soit une star dans la vie ou j'étais une trou de cul. Hein. Entre les deux, ça se pouvait pas. Hein. M'avait appris à me dire que j'étais quelqu'un parmi tant d'autres, tout simplement. À un moment donné, dans un intensif, j'ai raconté ça à la personne qui organisait l'intensif, puis elle m'a dit, « Lita, la présence de Dieu dans ta vie ou l'aide de Dieu dans ta vie ne dépend pas du mérite, mais dépend du besoin. » Puis elle dit, « Moi, là, je te regarde aller, puis je pense que tu n'as de besoin. » Et c'est comme ça que j'ai fait ma deuxième étape. C'est comme ça que j'ai été capable de faire la deuxième étape, puis de dire, « Bon, OK, j'ai un Dieu, il est capable de s'occuper de moi. » Puis, vous savez, moi, ce Dieu-là, là, tranquillement, il est devenu mon GPS, ma grande puissance supérieure. Vous voyez, là? Fait que comme un GPS, des fois, je m'astine avec mon GPS, hein, parce que ça marche pas à mon goût, fait que je voudrais passer là au lieu de passer là. Puis, souvent, mon deuxième réflexe, c'est de dire, gars, tasse-toi, là, mets-toi pas dans les jambes, là, puis laisse Dieu agir, parce qu'il va prendre des moyens. C'est le père Ambroise, hein, qui disait ça, le père, moi, je suis vieille, là, j'ai 109 ans, quand j'étais petite fille, le père Ambroise, c'était un missionnaire en Martinique. Il faisait partie des Oblats, lui. Puis il disait, j'étais toute petite, puis j'écoutais ça devant la télé chez nous. Il disait, Dieu se sert de lignes courbes pour faire des lignes droites, tu sais, là. Et ça me revient constamment maintenant à cause de la deuxième. Nous en sommes venus à croire. Des fois, le processus est plus long. Mais moi, Dieu merci, le processus a été assez rapide. Et j'ai été capable, en ayant cette définition-là de Dieu, qui est mon espèce de GPS, c'est-à-dire de grande intelligence universelle là, qui mène le monde, qui régulise toutes les choses dans la vie. Donc, moi, je fais partie de ça. Alors, troisième étape, confier ma vie. Apprendre à confier ma vie à Dieu tel qu'on le conçoit, hein, ma conception de Dieu. Ce que j'ai réalisé dans ma troisième étape, c'est que ça va marcher si je reste dans le moment présent. Je peux pas confier ma vie si je suis dans mon passé ou si je suis dans mon avenir. Puis moi, j'étais quelqu'un, quand je buvais, mon anxiété n'était pas tournée vers le passé. Mon anxiété était tournée vers l'avenir. Moi, j'avais peur de l'avenir. J'avais peur. Hein. Pour moi, c'était des scénarios catastrophes continuellement. Alors, tu peux pas confier ta vie quand t'es, en tout cas, selon moi, quand t'es dans le futur ou que t'es dans le passé. La machine, hein, le miracle opère quand t'es dans ton moment présent. Et ça, c'est une autre réponse que j'ai eue dans ma troisième étape, de dire, je suis capable de confier seulement quand je suis là, là. Là, c'est maintenant. L'éternité est maintenant, parce que maintenant, ça n'arrête jamais. Le passé, ça a une fin, hein, ça arrête au moment où c'est passé. Puis l'avenir, ça commence hein, après. Mais le présent, on est toujours dans le présent quand on y pense, tu sais. Fait que dans le présent, si je regarde ma vie actuellement, là, je partage avec vous autres, tout est parfait, je suis dans un endroit sécuritaire, il n'y a rien qui peut m'arriver, bingo, je peux confier. Je peux totalement confier ma vie à Dieu. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que ça m'a amené à comprendre un paquet de choses puis à faire un paquet d'affaires. D'être capable de comment je vous dirais ça? Vous savez, sur une grande rue, là, comme la rue Notre-Dame à Montréal, là, les lumières sont synchronisées à 40 km/h. Ça veut dire que si tu n'as pas de trafic là, puis que tu roules 40 km/h, tu vas frapper des vertes partout. Mais moi, dans ma vie, je me dis, si je fais confiance à Dieu, le synchronisme va s'installer. C'est-à-dire que les réponses vont rentrer, les lumières vertes vont s'allumer. Puis moi, j'ai juste à décoder ça, à être présente au moment présent, puis à décoder ce qui se passe autour de moi. L'exemple de ce matin était un bon exemple. T'sais. Alors, c'est comme ça. C'est de faire confiance. Alors, je vous dirais, la personne freak, control freak que j'étais quand je suis arrivée dans AA, qui est capable de devenir un instrument docile jusqu'à un certain point. Moi, j'ai une amie en Gaspésie, elle me connaît depuis l'âge de 6 ans. On a fait notre première année d'école ensemble. Okay? On se voit encore maintenant. Fait que c'est une amitié de 60 et quelques années. Et à un moment donné, je lui dis, je demande souvent à Dieu d'être son instrument docile. Puis elle me dit, toi, Lita, tu demandes à Dieu d'être un instrument docile? Je lui dis oui, j'aurais tout entendu. Là, parce que c'était tellement pas mon tempérament d'apprendre à confier. Moi, là, je menais ma vie, puis à un moment donné, j'ai compris que la manière que je menais ma vie, c'était pas fort. Fait que j'étais peut-être mieux de faire confiance, mais dans le moment présent. Et les expériences depuis que je suis sobre m'ont convaincue que j'ai passé à travers toutes sortes de choses parce que je me ramenais à mon moment présent. Hein? Puis la façon dont je me ramène à mon moment présent, c'est que quand je vois que je pars, je me répète la prière de sérénité dans ma tête 2-3 fois pour me grounder, pour être capable de faire ma troisième étape. 1-2-3, hein, ce sont des étapes de base, hein, des étapes qui nous permettent de nous grounder dans A, de nous permettre de nous installer dans A pour être prêt à la quatrième étape parce que Il y a un ordre là-dedans. Hein? C'est pas pour rien que la première, c'est la première. C'est pas pour rien que l'inventaire est à la quatrième et pas à la onzième. Hein? Alors, quatrième étape. Moi, là, vous imaginez un peu que mon background que je vous ai conté tout à l'heure, là, je suis partie avec le livre de Jacques T., le gros livre, un cahier, ébreuil, un crayon. Puis je suis descendue en Gaspésie, dans un chalet que je loue à chaque année, faire ma quatrième étape. Puis ce chalet-là, il est situé en face de la maison où j'ai été élevée. Puis le voisin qui nous faisait de la chenoute, là, ben, il est la maison d'à côté. Fait que je les avais dans ma vision pendant que j'écrivais ma quatrième étape. Alors, j'ai passé 2 semaines en Gaspésie à écrire, marcher, pleurer, pleurer, marcher, écrire, appeler ma marraine à Rimouski, puis lui dire, là, ça marche plus, là, ça marche plus. Puis elle me remettait sur la traque, puis j'ai fait ma quatrième étape au complet en Gaspésie. Ça a été extraordinaire parce que j'ai fait ça tout seul et j'ai été capable par la suite de monter à Rimouski puis de mettre ça dans les mains de ma marraine, ce qui a été fantastique pour faire la cinquième étape.
Alors là, on va faire une pause dès maintenant, mais je retiens dans ce segment qui a été fort apprécié de ma part, c'est les belles images que tu nous as soumises, hein, le GPS, les vases communicants. Alors, tout ça a fait en sorte que tu t'es rétabli tranquillement, pas vite, grâce à toutes ces belles petites images-là que tu nous as soumises, que Dieu se manifeste à travers les êtres humains. Il s'est manifesté à travers toi, puisque tu es maintenant aujourd'hui devant nous. Alors, un super merci pour ce beau segment et on revient après cette pause.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et Richard. Si vous êtes un auditeur et que vous voulez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Tu pourras y trouver, par exemple, le numéro de ligne d'aide de ta région. Si tu ressens le besoin de parler avec un autre alcoolique, il sera à ta disponibilité. Tu auras aussi accès à la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme. Parce que c'est un très grand organisme que sont les alcooliques anonymes. Ils sont partout à travers le monde et on peut les retrouver même lorsque nous sommes en voyage. On peut, grâce à une application, retrouver des meetings peu importe le pays dans lequel on se trouve. Alors, nous sommes de retour en compagnie de Lita et de son quatrième segment. Alors, c'est à toi, Lita.
Merci, Richard. Eh oui, on a fait la cinquième. Écoutez, mon chalet est en Gaspésie. Je suis monté à Rimouski avec Michel. J'ai fait ma cinquième étape. On a brûlé ça dans la combustion en plein mois de juillet. Puis, on est allé manger un homard chez Le Mieux. Ça a été magnifique. C'était une journée qui m'a permis de... Cinquième étape faite. Là, on arrive à sixième et à septième. Bon, je vous ai dit que quand moi, j'étais petite, là, il y a un psychiatre qui avait découvert que j'avais le syndrome de l'abandon. Ben Dieu se sert des gens et des événements. Hein. Je suis dans un meeting à un moment donné, puis il y a une personne qui partage puis qui dit qu'elle a abandonné un enfant en crèche. Il y a bien des années de ça. Et moi, je suis assise sur ma chaise, j'ai quelques mois de sobriété, puis il y a une colère qui monte en moi en me disant, c'est qui cette crise de folle, tu sais, qui a abandonné un enfant. Et je réalise, en parlant avec ma marraine, que c'est ma souffrance à moi. Là. Elle a, sans s'en rendre compte, touché à ça. Et là, j'ai décidé que je m'occuperais de ça. Hein? On fallait s'occuper de ça. Alors, je me suis mis, moi, mon outil principal, c'est de lire. Alors, je me suis mis à lire, entre autres, une psychiatre qui a écrit beaucoup sur l'adoption et tout ça, pour me comprendre. Puis, je suis venue à bout de faire la part des choses là-dedans, puis faire la paix avec ça. Sauf qu'il me restait un élément, puis c'est Sœur Colette, qui est plus religieuse maintenant, mais c'est Sœur Colette qui avait réglé mon problème dans un intensif. Moi, j'ai fait des tonnes d'intensifs. À un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qui me prouve que ma mère qui m'a mis au monde m'aimait? Et Sœur Colette m'a dit, quand tu vas revenir chez toi après l'intensif, prends une feuille de papier et un crayon, puis écris une lettre à ta mère naturelle, ta mère biologique. Et je me suis assis, j'ai pris un crayon, puis j'ai commencé, chère maman, et je me suis mis à pleurer, parce que j'ai compris, et là je vous dis ça avec beaucoup d'émotion, que cette femme-là m'avait aimée. Mais qu'en 51, puis là, maintenant je connais toutes mes origines, j'ai fait des démarches, je comprends maintenant pourquoi elle a posé le geste qu'elle a posé. Ça, c'est la quatrième, la cinquième, hein, qui permettent d'éterrer des choses comme ça. Puis la sixième, septième, pour moi, ce sont des étapes de conscience. J'ai compris avec les années, moi, que moi, je vais toujours être une petite vite, puis je vais toujours être une impatiente, puis je vais toujours être une germaine, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça, que c'était ancré en moi, mais que je pouvais amoindrir ça, que je pouvais en prendre conscience, puis gérer ça. Pour moi, la conscience, c'est comme la pâte à dents dans un tube. Quand c'est sorti, tu peux plus la remettre en dedans. T'as pris conscience de quelque chose, tu sais. Fait que j'ai pris conscience de mon ego, hein, puis quand on parle des étapes, là, la dixième où on fait un inventaire, là, ça m'a prouvé que à chaque fois que je me questionnais, hein, mon ego arrivait. Alors, ça m'a permis de voir qui j'étais dans ma quatrième, cinquième. Puis là, j'ai compris que y a pas un gros travail à faire, hein. Ça dit qu'on est prêt à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Ça veut dire qu'on prend conscience qu'on n'est pas parfait, on n'est pas des trous de cul, mais qu'on a une part de lumière, puis une part d'ombre, puis qu'il faut vivre avec ça, puis d'en prendre conscience, puis développer d'autres réflexes par rapport à des réactions que j'avais quand les gens pesaient sur le mauvais bouton, là, hein? Quand les gens pesaient sur les mauvais boutons, là, on saute en l'air, ou on pleure, ou on fait du ressentiment, ben, j'ai appris à prendre conscience que c'est simplement ça, ils pèsent sur des boutons, puis ils savent pas que c'est des boutons de souffrance pour moi, puis que moi, je dois apprendre à gérer ça. Dans la septième, on dit, on lui a demandé, ben, c'est ça. Quand on est prêt, on est capable de dire à Dieu, gars, tu m'as arrêté de boire, tu peux t'occuper de la balance. Ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, oui, j'ai encore des montées de lait dans ma tête, mais aujourd'hui, la plupart du temps, je réussis à ramener ça, tu sais, à faire un, deux, trois, là, whoop, là, tu sais, on ramène ça, tu sais. Mais il y a des fois, je me suis encore fâchée ce printemps, au début de la pandémie, après mon propriétaire, puis j'en ai payé les frais, puis j'ai dû faire amende honorable, puis là, je me dis, gars, si tu veux être honnête, là, si tu sautes ta coche, il faudrait que tu fasses amende honorable. Fait que essaye de pas trop sauter ta coche rapidement, tu sais. Et j'ai été capable, depuis ce temps-là, c'est comme ça que je travaille sur mes défauts de caractère, en prenant conscience, en me disant, oups, première réaction, mais la deuxième va être autre chose. C'est ça qui fait que je suis heureuse maintenant, puis que ça va bien. Ça va bien, hein. La huitième, ben, j'ai entamé la huitième, puis j'ai laissé ça dans les mains de Dieu, j'ai pas passé de commande, rien. Et les gens à qui j'avais besoin de faire amende honorable se sont présentés dans ma vie, et ça a été génial, parce que ils m'ont reçu là-dedans de façon extraordinaire. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a, tu sais, il y a juste mon père ou ma mère, j'ai pas pu le faire, mais tu sais, on continue la vie, puis c'est comme ça, tu sais. J'ai été capable de réparer mes torts quand ça a été possible. Vous savez, moi, j'ai la chance, hein, d'avoir une vie quand même, malgré tout, là, où j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas usé de violence majeure, fait que j'ai été capable en grande partie de réparer les méfaits que j'ai pu faire autour de moi, grâce à Dieu, et faire ça. La dixième, c'est le fun, hein, parce que dans la dixième, là, moi, à un moment donné, j'ai pris, après ben des intensifs, j'ai pris une feuille de papier papier, puis je me suis mis le soir à écrire, tu sais, là, pourquoi j'ai réagi de même? Pourquoi? Les cinq pourquoi? Ben, le cinquième pourquoi, c'était toujours mon ego qui retroussait. Et là, j'ai compris que mon problème majeur, ma déficience numéro un, était mon ego. C'est pour ça que je fais du service. Parce que quand j'ai lu Jacques T, il dit, si tu veux, casser un ego, fais du service. Parce que pour casser un ego, t'es obligé de discuter avec des gens, prendre des décisions. Il y a de la controverse. Si ton ego est trop en avant, tu perds de vue que tu t'occupes de l'alcoolique qui souffre encore, puis là, t'es plus là pas en tout, tu sais. Fait que s'il y a des gens comme moi qui ont un gros ego, là, venez faire du service avec nous autres. Ça te casse un ego, pas à peu près, hein. Aujourd'hui, je suis capable de, hein, puis même sur le coup, des fois, là, je vais réagir, puis je vais dire, ah, c'est encore l'ego. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appris que l'ego, c'était comme l'océan puis la vague, hein. L'océan, c'est moi, la vague, c'est mon ego. Je peux pas ne pas avoir d'ego, ça me sauve la vie, un ego. Mais j'ai besoin d'avoir un ego normal, un ego correct, tu sais, là. Un ego, hein, mais vase communicant, là. Un ego pas trop gros, avec une estime de soi qui est collecte quelque part, hein. La onzième étape, hein, la méditation, la prière. Moi, j'ai appris à méditer avec Maharishi. Maharishi, c'est le gourou des Beatles. Moi, dans les années 90, là, j'ai payé ma quote-part. D'ailleurs, je l'ai rebaptisé Marache mon cash parce que ça m'avait coûté une coche, là, de payer ça. Mais j'ai appris à méditer dans les années 90, toujours dans le même espoir de remplir mon fameux vide, là. Et ça, j'ai jamais lâché ça. Les dernières années, un peu moins, là. Mais quand je suis revenue d'en haut, j'ai repris l'habitude de méditer. Je médite sur une base régulière. Pour moi, méditer, c'est Dieu qui me parle. La prière, c'est moi qui parle à Dieu. Alors, le matin, moi, mes prières, c'est merci. Avant, je passais des commandes. Là, c'est maintenant merci. Merci de la vie que tu me donnes. Merci de la santé. Merci de l'appartement où je demeure. Merci le quartier où je demeure. J'étais allée en ville hier, là. C'est l'enfer. Je suis tellement contente de rester dans l'est de la ville. Alors, mes prières sont des merci parce que Dieu sait mieux que moi, hein. D'ailleurs, dans les promesses, on le dit, hein. Dieu va faire ce que moi, je n'arrive pas à faire. Fait que je me tasse, je laisse aller mon GPS qui fait la job, puis je me laisse aller là-dedans. Et ça m'a amené à la 12e. Ça m'a amené à ce fameux réveil spirituel qui s'est installé, hein. Ça n'a pas été spectaculaire, qui s'est installé tranquillement dans ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de serein et que je suis capable aujourd'hui de partager ce bagage-là avec plein de monde. Et je me veux généreuse là-dedans. Aussitôt que quelqu'un est en quête d'aide, je veux être là. Je fais du service. Je suis à l'aide téléphonique. Je suis coordinatrice de l'aide téléphonique par intérim, là. Je fais de l'écoute téléphonique. Je vous dis pas ça pour me vanter. Je vous dis ça parce que c'est ma garantie prolongée pour rester sobre de faire du service. T'sais. J'ai animé beaucoup de meetings téléphoniques. Toujours parce qu'on est dans une période difficile actuellement avec la pandémie, là. On vit dans une incertitude totale. Alors, le programme AA est absolument essentiel dans ma vie. Alors, moi, je fais du service. Un matin, j'étais à l'aide téléphonique. On a eu une annulation. J'ai offert. Je me suis ramassée. Je suis devant vous ce matin à partager. Pour moi, AA, c'est ça. Le miracle, AA, c'est ça. Aussitôt qu'on a un petit peu de bonne volonté, il y a des miracles qui se font, tu sais. J'ai une filleule actuellement qui m'écoute parler, puis j'y partage beaucoup, hein. C'est la meilleure façon d'aider une filleule, c'est de partager nos affaires. Puis j'y partageais des grands bouts de ma vie où je suis allée beaucoup plus loin avec elle, puis elle me disait, mon Dieu, que ça a pas l'air de, t'as pas l'air de ça, tu sais, là. Ben, j'ai dit, c'est ça le travail du programme AA, c'est cette évolution-là, c'est ce processus de rétablissement-là. Moi, j'ai une amie qui m'a pas lâché, même si j'ai perdu bien du monde dans mes dernières années. Il m'a jamais lâché. Puis l'année passée, on marchait dans le parc La Fontaine, puis il me dit, Lita, peux-tu te dire que t'es un miracle? J'ai dit, on dit ça là-haut, qu'on est des miracles, tu sais. Il dit, moi, je te regarde à évoluer, là. C'est effrayant, le chemin que t'as fait, tu sais, là. Et ça, je le dois à AA, je le dois aux membres, je le dois à mes marraines, je le dois à toutes sortes de monde avec qui j'ai parlé, je le dois à mes intensifs où je me suis impliquée à mort dans les intensifs. Là, ça s'est arrêté à cause de la pandémie. Je suis quelqu'un qui a pris, j'ai eu le bonheur, la chance, la lucidité divine de m'impliquer totalement dans AA pour m'en sortir. Et aujourd'hui, je récolte ça. Puis j'ai une marraine qui m'avait dit, Lita, si t'es malheureux dans AA, là, va boire, tu sais, là. Parce que le but, là, hein, les vieux disent être condamné au bonheur, ben, le but, c'est d'être heureux dans AA, hein. C'est d'être capable d'arriver à se lever le matin puis d'apprécier, hein, le réveil le matin à jeun. Puis d'être capable d'être en pleine possession de sa vie, puis d'être capable de faire marcher mon GPS. Moi, maintenant, je marche tous les jours à une heure et demie de temps tous les matins, même si je suis coordonnatrice, ça, c'est du temps qui est réservé pour moi. C'est mon équilibre. Je suis en pleine nature, sur le bord du fleuve. N'oubliez pas que je viens de Gaspésie, fait que je me suis trouvé un spot sur le bord de l'eau pour marcher. Et là, je médite, je parle à Dieu. C'est mes moments de plénitude où je me ressource pour la journée. Après, là, je suis capable, quand j'arrive dans le vrai monde, je suis capable de fonctionner. Et je vous avoue, là, que les promesses, moi, les promesses, là, grâce à ça, après 14 ans de sobriété, et c'est pas fini, hein. On dit toujours dans l'autre, le meilleur est à venir. Mais moi, le meilleur est à venir parce que les promesses se sont réalisées. La troisième, hein, on regrettera pas plus le passé que nous voulons l'oublier. Connaître le mot sérénité, perdre le sentiment d'être inutile, c'est vraiment d'arrêter de tourner vers moi, mon intuition qui est mon GPS. Tout ça pour vous dire aujourd'hui, je dis un grand merci à
Alors, merci beaucoup, Lita. C'est très enrichissant. Hein? Tu nous fais vivre le programme à plein. Tu mets de l'avant toutes les étapes. Et tu as su aussi nous dire que, comme la 11e étape le dit, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions. Pour toi, il est maintenant un GPS qui te guide à travers et qui te donne le bon chemin pour retrouver ce bel équilibre que tu as atteint. Alors, merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier tous les participants à cette émission, notre invité Lita, les auditeurs, l'équipe technique, hein, qui font un travail colossal à monter les émissions, nos collaborateurs, les radiodiffuseurs. Je m'appelle Richard, vous êtes en ma compagnie avec celle de René et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.